Un calme fatalisme vaut une certaine lucidité. Une parcelle de courage pour affronter le jour qui vient et dont je sais ne devoir rien attendre de bon. Des pas dans le couloir. Le roulement d'un chariot, me semble-t-il. Un volet s'ouvre dans la porte de notre cellule. Imitant mes compagnes, je présente mon quart, sorte de gobelet en fer brûlant, dans lequel m'est versée une mixture foncée. C'est le café. Je bois. Ça n'a rien de commun avec le café, hormis la couleur. J'apprécie quand même. Mes compagnes de captivité l'accompagnent d'un reste de pain de la veille. Pour ma part, je n'en ai pas. La ration de pain est remise une fois par jour, le midi. Dans un coin de la cellule, il y a une cuvette et un broc d'eau. Je fais un peu de toilette. Refaire ainsi les gestes que je faisais chaque matin me fait retrouver un rythme, me redonne une part de ma personnalité, me rassure. Je suis là, j'existe, je fais front. Les WC, qu'on appelle tinettes, sont dissimulés dans le mur. Il s'agit d'un récipient en métal retenu par une chaîne et pouvant être tiré depuis l'extérieur. C'est une détenue qui fait cette corvée de vidange. Il me faut m'habituer à cette triste promiscuité. Ce n'est pas facile, enfin. La messe de Noël. Dans le courant de la matinée, la porte s'ouvre. « Voulez-vous aller à la messe ?» nous demande une gardienne. Je ne suis pas croyante, mais j'accepte tout de suite l'invitation. Crédule novice, je suppose que l'on va sortir pour se rendre dans une église proche. C'est une occasion de bouger, de rencontrer d'autres détenus. Et puis je quitterai l'univers de la cellule qui, déjà, me pèse. Les détenus se rangent les unes derrière les autres dans le couloir. Puis l'ordre de départ est donné. Nous montons d'interminables escaliers métalliques sur les marches desquels chaussures et sabots frappent, faisant un bruit infernal qui résonne dans tout le bâtiment. Il y a au moins 3 étages. Au fur et à mesure que nous montons, mes illusions s'envolent. En fait de sortie, nous restons à l'intérieur de la prison. Enfin, nous arrivons devant des petits box et chaque détenu entre dans un de ces endroits réduits, grillagés, qui se referment aussitôt. Il y a là un petit banc, au fond, une ouverture. Je m'approche. J'aperçois en bas une modeste chapelle dans laquelle se tient un curé. Il attend que tout le monde soit installé. Il nous accueille assez aimablement et nous fait aussi un peu de morale, mais sans trop insister. Il nous souhaite aussi de nous en sortir. J'entends près de moi des femmes qui pleurent. Au bout d'une demi-heure environ, l'office se termine. Nous regagnons nos cellules. Je ne suis plus retournée à la messe durant mon séjour à la prison française. Le quotidien de la prisonnière. Vermilio nous apporte une gamelle de soupe. Elle comporte surtout des rutabaga. Nous recevons aussi notre boule de pain. Ce n'est pas fameux, mais il faut bien manger. L'après-midi, il y a promenade. Nous nous retrouvons dans une cour entourée de hauts murs. On a très froid. L'enclos est étroit. Qu'importe, on voit le ciel, espace de liberté. Ça fait du bien. Les détenus parlent de leur affaire. Circulent aussi les nouvelles, vraies ou fausses, sur la vie interne de la prison. Je ne suis pas concernée par ces potins. Je viens d'arriver. En outre, j'ai le sentiment que mon statut de politique me tiendra plus ou moins à l'écart. Quelques jours passent ainsi de façon monotone. Les journées sont longues, les nuits aussi. L'optimisme n'est pas de mise, mais aussi noir qu'apparaisse l'avenir, au fond de moi, brille toujours la petite lueur d'espoir. Nous sommes au début de 1943. J'apprends par la femme qui fait le service des tinettes que maman est arrivée à la prison. Cette triste nouvelle vient encore ajouter au désarroi qu'est le quotidien de l'univers carcéral. Elle m'affecte particulièrement. Je m'y attendais, mais tout de même, c'est dur, très dur. Maman est très forte et je sais qu'elle résistera à tous les interrogatoires, aussi pénibles soient-ils. Au moment de son arrestation, à l'insu des policiers, elle a pu brûler les tracts qu'elle gardait toujours près de la cuisinière dans le seau à charbon. De nous savoir l'une et l'autre dans la même prison est une situation très difficile à supporter, aussi bien pour elle que pour moi. Je n'en mentionnerai pas les détails, c'est trop pénible à expliquer. Après quelques semaines de ce routinier débilitant quotidien de prisonnière, on revient me chercher pour le tribunal. Je me retrouve au greffe et j'ai la surprise de voir maman arriver. C'est assez déchirant de se retrouver. Je peux l'embrasser, nous sommes effondrés. Je lui glisse tout bas à l'oreille, je n'ai pas parlé. Mais c'en est trop, les gendarmes ont sans doute compris et ils nous séparent tout de suite. J'ai une crise de nerfs. Nous partons en voiture cellulaire vers le tribunal. À notre arrivée, place Fontaine, on nous fait entrer dans une cage grillagée comme des bêtes féroces. C'est dans cet endroit que nous devons attendre l'arrivée du juge d'instruction. C'est long. Nous sommes au mois de janvier, nous avons très froid. Enfin, on vient nous chercher pour nous introduire dans le bureau du juge. Nouvel interrogatoire. Le juge n'insiste pas trop. Il est moins dur que le capitaine de gendarmerie. Il a su, malgré les circonstances, conserver sa dignité et sa pondération de magistrat consciencieux. Quand le juge en a fini, les gendarmes le reconduisent à la prison. Et, de nouveau, les jours passent, sans qu'il ne se passe rien. Cette monotonie est extrêmement pénible. Elle m'affecte beaucoup. Sans doute fait-elle partie de l'arsenal répressif dans le but de saper le moral, effacer la personnalité de l'accusé afin d'avoir devant soi, lors des interrogatoires, une inculpée sans ressort et sans volonté. Mise au secret. Je crois me souvenir que c'est durant courant février. Coup de théâtre, la surveillante vient précipitamment me chercher. Elle a hors de me mettre toute seule dans une cellule. Je dois être isolée, sans aucun contact avec les autres détenus. C'est le début du secret qui va durer environ 6 mois. Que se passe-t-il? Pourquoi soudain cette mesure de rigueur? Je suis angoissée. Cela n'annonce rien de bon. Je passe des jours et des nuits très pénibles. Que deviennent mes compagnons de résistance? Ma mise au secret n'est-elle pas due à des événements extérieurs, tels qu'une recrudescence de leur action? En l'absence de réponse à ces questions, j'en suis réduite à toutes les hypothèses. La folle du logis gamberge tout à son aise. Par l'intermédiaire de la préposée aux tinettes, j'apprends que maman, elle aussi, est isolée dans une cellule. Par cette courageuse jeune femme, nous arrivons quand même à communiquer. Nous nous passons des petits mots. Cela nous aidera pour les prochaines confrontations. Cette femme prend des risques. Elle doit faire vite, car si elle était prise, elle pourrait être envoyée au mitard. Cellule sans aucune ouverture sur l'extérieur. Dans les prisons, les détenus ont toujours la hantise de se retrouver dans ce trou noir. Quelques jours encore, une semaine je crois. Les interrogatoires se font maintenant avec les inspecteurs de la police mobile de Rouen. Ce sont des brutes. Ils veulent à tout prix nous faire parler, par tous les moyens. Je suis giflée, bousculée. Maman et moi avons toujours la même position. Nous ne parlons pas. Leur but est de donner le plus possible de renseignements aux autorités allemandes. Chapitre 3. Transfert au quartier allemand. Fin février ou début mars, je ne sais exactement. Nouveau coup de théâtre. On me transfère au quartier allemand. C'est une grosse femme allemande qui me prend en charge. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas aimable. Je suis la terroriste. Elle est la rigoureuse gardienne de l'ordre allemand. Je me retrouve dans une cellule au premier étage. Je me rends compte que je suis seule à ce niveau. C'est le silence complet. Les murs de la cellule sont peints à la chaux, ce qui donne une pièce assez claire. De place en place, des graffitis témoignent de la misère, de la parcelle de vie faite d'espérance et de découragement vécu entre ces murs. L'un des graffitis m'apprend qu'une femme est restée 9 mois dans cette cellule avec son bébé. Cette jeune femme, Madame Thomas, était enceinte lors de son arrestation. On vient de lui retirer son bébé. J'ai appris par Gisèle, après la guerre, qu'elle était passée par la chambre à gaz. L'enfant, prénommé Jean-Paul, avait été rendu à sa famille. Quand j'étais au quartier français, je l'ai souvent entendu pleurer. Il n'y avait qu'une cloison qui séparait les deux quartiers. Cette aggravation des conditions de détention semble accréditer la crainte que les Allemands aient découvert mon rôle dans l'organisation. C'est le secret complet. Aucune occupation possible. Pas de lecture, pas de quoi écrire. Rien. Rien à faire. Les journées et les nuits sont longues. Pendant ces dernières, le sommeil me fuit. L'anxiété, le manque d'exercice sans doute. De plus, il y a souvent des bombardements d'aimants sur Caen, car il y a un grand camp d'aviation au sud-ouest de la ville de Carpiquet, pas très loin de la prison à vol d'oiseau. On entend le vrombissement des appareils anglais. On a l'impression qu'ils piquent sur la prison. La peur, toujours la peur. L'éclatement des bombes auxquelles se mêlent les détonations sèches de la DCA allemande porte ma peur à son paroxysme. Quand on est enfermé, c'est la panique. La seule façon d'atténuer son angoisse en ces moments-là est de marcher de long en large dans la cellule. Je fais des kilomètres. Dans cette situation qui se prolonge des jours, des semaines, des mois, je crois parfois être sur le point de perdre la raison. Ce n'est pas possible. Je suis littéralement rayée du monde des vivants. Dehors, la vie continue. J'ai parfois du mal à me faire à cette idée. Bien que très affaiblie, des cris, des appels, certains bruits de la rue ou de la campagne proche me parviennent. J'entends fort bien les allées et venues des motos allemandes qui montent ou descendent la rue, ainsi que voitures et camions faisant la navette entre le camp d'aviation et la ville. Enfermée dans le silence de ma cellule, aucun bruit de ce qui bouge, de ce qui vit ne m'échappe. Pour ne pas succomber à la folie, j'ai quand même trouvé un divertissement. Je chante. Je chante n'importe quoi. Je n'ai jamais autant chanté. Le repas, rituel immuable, est le fait marquant de la journée. Dommage que le menu soit immuable, lui aussi. À la fois frugal et insipide, j'ai souvent très faim. Je n'ai bien entendu pas droit au colis. Une miette de pain qui tombe, je la ramasse.